Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 3 avril 2021. Vous écoutez le programme en français sur radio SBS, Christophe Mallet, pour vous présenter cette émission d'une heure. Donc sur radio SBS dans l'émission. Aujourd'hui, au programme, nous parlerons de Victor Hugo. Nous marquerons l'anniversaire des Misérables. Et oui, c'est l'anniversaire aujourd'hui même de la sortie du livre, donc Les Misérables. Mais pour l'heure, on va passer au journal. Et dans ce journal, donc les grands titres, une attaque contre le complexe du Capitole américain à Washington DC. Cette attaque a fait un mort et un autre policier qui est à l'hôpital. La Therapeutic Goods Administration en Australie se réunira aujourd'hui pour examiner s'il existe un lien entre le vaccin AstraZeneca et des caillots sanguins. Un cas donc de caillots a été trouvé ces derniers jours. Et en France, confinement, retour du confinement, les écoles fermeront leurs portes ou ont fermé leurs portes pour 3 à 4 semaines. On débute donc ce journal avec les autorités sanitaires australiennes de la Therapeutic Goods Administration et de l'Australian Health Protection Principal Committee qui se réuniront donc d'urgence aujourd'hui pour examiner s'il existe un lien entre le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins détectés chez un receveur vacciné. Il a été révélé cette semaine qu'un homme de 44 ans a été admis à l'hôpital de Box Hill, dans l'est de Melbourne. C'était le mois dernier, avec des caillots sanguins quelques jours après avoir reçu une injection du vaccin contre le coronavirus, vaccin d'AstraZeneca. La professeure Marie-Louise McClose de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud rassure et a déclaré à l'ABC qu'il n'y avait pas grand-chose à craindre avec le vaccin AstraZeneca. On l'écoute.
Because we're looking at vaccines with a microscope and seeing what's happening, we're very, very responsive and careful about this. So I suggest that there's probably the occasional link, but across all of those, it probably has occurred because the people who are getting vaccinated early, and particularly the man in Australia, may be because they have a specific medical condition that is often sometimes linked to rare events like these.
Voilà donc la professeure Marie-Louise McClose de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. En France, début des nouvelles restrictions et des nouvelles mesures de confinement qui ont été mises en place pour les 3 à 4 semaines à venir. Et l'une d'entre elles, c'est la fermeture des écoles. Et ce n'est pas toujours simple. Reportage de Cédric Oliveira.
C'est un air de déjà-vu pour Thibault, enseignant dans une école primaire d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Il va reproduire la même méthode que lors du premier confinement l'an dernier. Impossible pour lui d'utiliser des outils numériques avec ses élèves.
Pas de visio parce que ça n'a pas marché avec des élèves de la moitié des CE1. Bien souvent, les familles qui ne sont pas équipées, ça va de pair avec les élèves qui sont le plus en difficulté. C'est pour ça en fait que je suis passé par du 100% papier en fait. C'est des fiches d'exercice, de révision.
Comme beaucoup d'établissements, son école a dû s'adapter. Il consacrera d'ailleurs physiquement une journée aux enfants des soignants de son secteur. Pour Elias, professeur de mathématiques dans un lycée francilien, les cours passeront forcément par la vidéo. Il espère que ses élèves joueront le jeu.
Ça n'a rien à voir avec un cours physiquement en face, une interaction. Mais si tout le monde, tous mes élèves se connectent, ça va être vraiment une semaine utile. C'est déjà pas mal.
Elias, comme la majorité des enseignants, espère que ces 4 semaines d'éloignement ne provoqueront pas de décrochage scolaire, notamment parmi les familles les plus défavorisées. Selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale, près d'un million d'élèves s'étaient retrouvés dans cette situation l'an dernier.
Et c'était Cédric De Oliveira pour RFI. Je vous le disais en titre, un officier de la police autour du Capitole a été tué et un deuxième policier est blessé à l'hôpital après avoir été percuté par un véhicule donc devant le Capitole américain. C'est à Washington DC, c'était hier. L'accident et la fusillade se sont produits à un point de contrôle de sécurité, donc tout près du Capitole. Le chef du département de la police métropolitaine, Robert Conti, a déclaré que l'attaque ne semblait pas être liée au terrorisme, bien que le Capitole ait été fermé par précaution. Il ne semble pas non plus y avoir de lien immédiat apparent entre l'incident de cette nuit et les émeutes du 6 janvier. On l'écoute.
There's not a lot of information that we can release to the public at this time, but we certainly will be working very closely with our partners at the Park Police, at the U.S. Capitol Police. At this time, I just want to extend my deepest condolences on behalf of the entire Metropolitan Police Department to all of the officers at the United States Capitol Police for their service and unfortunately for the loss of life that have occurred here today.
Voilà, donc c'est Robert Conti, le chef du département de la police métropolitaine. Le policier qui a trouvé la mort s'appelait William Billy, son surnom Evans. L'agent Evans est le 7e membre de la police du Capitole à mourir dans l'exercice de ses fonctions dans l'histoire du département. Un témoin, le révérend Patrick Mahoney, a déclaré qu'il terminait un service du Vendredi Saint à proximité lorsqu'il a soudainement entendu 3 coups de feu.
I was looking down and suddenly I heard the distinctive sounds. It appeared to be 3 shots. I saw people running the opposite way from where the incident took place. I'm a clergyman. I felt like if there was anyone that needed prayer or support, I started heading up. I was about maybe 100 yards away from where the incident took place. And coming down the hill was a woman, I would say, in her 20s, shaken up. And she said the police had shot a man, and I'm using her words, with a machete in his hands.
Voilà donc le témoignage de Patrick, du révérend Patrick Mahoney. L'Ukraine qui s'inquiète des nouveaux mouvements de troupes opérés par l'armée russe à la proximité de ses frontières. La tension est donc montée d'un cran ces derniers jours. La Russie assure de ne pas vouloir de conflit et adresse des mises en garde aux Occidentaux qui tenteraient d'interférer dans sa politique nationale. Ambiance avec Anastasia Baker.
Moscou n'a rien à voir dans l'escalade des tensions. La Russie ne menace personne et n'a jamais menacé personne, affirme Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, tout en mettant en garde les Occidentaux qui seraient tentés de venir en aide à l'Ukraine.
Un tel scénario à proximité des frontières russes mènerait à une escalade des tensions. Il entraînerait des mesures supplémentaires de la partie russe pour assurer sa sécurité.
Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de l'escalade des tensions, chaque camp accusant l'autre de provocation sur la ligne de contact. Pour autant, le secrétaire d'État français aux affaires étrangères, Clément Beaune, veut croire que le conflit ne va pas dégénérer.
Il faut rester prudent parce qu'il y a parfois beaucoup de provocations. Vous savez, parfois, à chaque fois qu'il y a un espoir de reprise des discussions, c'est accompagné, je ne dirais pas d'un jeu, parce que malheureusement, il y a des morts chaque mois, mais de tensions ou de provocations. Donc je ne crois pas qu'on aura une escalade, mais on est très prudent. Et c'est pourquoi la France et l'Allemagne essayent de pousser le président russe et le président ukrainien à reprendre les discussions. Et on espère que les discussions pourront reprendre dans les prochaines semaines.
Les dernières discussions entre les présidents russes et ukrainiens remontent à décembre 2019 à l'Élysée.
Et c'était Anastasia Beko pour RFI 13h08, direction Taïwan. Maintenant, les forces de sécurité ont nettoyé la zone aujourd'hui à Hualien, donc c'est à l'est de Taïwan, un jour après qu'un train, soit percuté par un camion sans chauffeur, un camion qui avait roulé sur la voie, faisant au moins 50 morts et des dizaines de blessés donc, dans cet accident. Le frein d'urgence du camion n'était pas correctement engagé, donc ça c'est selon le service de secours du gouvernement, et le véhicule a glissé d'environ 20 mètres en bas de la colline. Et à quelques minutes plus tard, la voiture de tête du train s'est fracassée contre ce camion. Juste avant l'entrée d'un tunnel, le train transportait plus de 400 personnes. Des images ont montré des gens en train de prier alors que des corps étaient transportés sur des civières jusqu'à une camionnette donc dans le comté de Hualien. C'est la plus grande catastrophe ferroviaire meurtrière donc de l'île. De nombreux passagers ont été écrasés dans l'incident, tandis que certains survivants ont été forcés de sortir par les fenêtres et de marcher le long du toit sur le train pour se mettre en sécurité.
Because there's no other way for us to walk to get out of the train, we had to climb to the top of the train and then climb down.
Direction la Birmanie maintenant, autrement connue sous le nom de Myanmar en Australie. 543 civils, dont plus de 40 mineurs, ont été tués par les forces de l'ordre qui répriment toute opposition au nouveau régime en place après le coup d'État du 1er février. La junte au pouvoir entreprend de couper toutes les communications Internet pour stopper les dialogues entre les gens. Et pendant ce temps-là, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné toute violence. Christophe Paget.
Le Conseil de sécurité dénonce fermement le recours à la violence contre des manifestants pacifiques. Il aura fallu 2 jours de laborieuses négociations pour aboutir à un texte au final largement édulcoré par la Chine. Dans les versions précédentes, le Conseil était prêt à envisager de nouvelles étapes, ce qui aurait pu annoncer des sanctions auxquelles Pékin est opposé. Plusieurs dizaines de pays membres de l'ONU ont également condamné la suspension par les militaires birmans ce vendredi des connexions Internet sans fil pour, estiment ces pays, restreindre l'accès à l'information. Sur le terrain, les militants s'adaptent déjà, mettant en place des systèmes d'alerte SMS et partageant des fréquences radio. Écoutons à nouveau la radio, téléphonons-nous les uns aux autres, écrivait dans la nuit sur sa page Facebook Kin Sadar, une des figures du mouvement, qui appelait aussi les Birmans à déposer ce vendredi des fleurs aux arrêts de bus, d'où des manifestants sont partis avant d'être tués par les forces de sécurité. Le groupe de défense de l'Association pour les prisonniers politiques estime que 543 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Parmi elles, 44 enfants. Selon l'ONG Save the Children, le nombre d'enfants tués a plus que doublé ces 12 derniers jours.
Et c'était Christophe Paget pour RFI. C'est le week-end pascal, vous n'êtes pas sans le savoir. Et à travers le monde, eh bien, les services sont marqués à peu près partout, malgré des restrictions différentes donc au Covid-19. Les chrétiens de Jérusalem célèbrent le Vendredi Saint sur les sites religieux qui sont ouverts, mais les pèlerinages de masse ne sont pas autorisés. Et pendant ce temps-là, les chrétiens de Sydney sont heureux de ne pas avoir à passer le week-end pascal à regarder les services en ligne.
It's wonderful that we're able to open up again and honour God in the Easter services. It's so much more meaningful when we can do it in the company of other people rather than in isolation from our own homes.
13h12, avant de passer à la météo, je vous rappelle qu'on passe à l'heure d'hiver ce soir. N'oubliez donc pas de retarder vos montres d'une heure. Et oui, cela vous donnera donc une heure de sommeil. En plus, coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 34 degrés, Adélaïde 32, Melbourne 30, Hobart 30 également, Canberra 27, Sydney 27, Brisbane 25, Cairns 30 et Darwin 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, la Therapeutics Goods Administration qui se réunira aujourd'hui pour examiner s'il existe un lien entre la vaccination AstraZeneca et la formation de caillots sanguins. C'était le cas chez un homme de 44 ans. En France, confinement, retour donc en confinement et des écoles qui ferment pour 3 à 4 semaines. Et aux États-Unis, une attaque contre le complexe du Capitole américain à Washington DC qui a fait un mort et un autre policier qui est à l'hôpital. 13h12, courte pause et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Programme en français. Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports en ce samedi. On commence avec du football et la 31e journée de la Ligue 1 qui aura lieu à partir de ce soir avec de très très beaux matchs, notamment Monaco qui recevra Metz, Paris Saint-Germain recevra Lille, Lens recevra Lyon et dimanche, Angers recevra Montpellier, Reims recevra Rennes, Nantes recevra Nice, Bordeaux recevra Strasbourg, Lorient recevra Brest, Nîmes accueillera Saint-Étienne et Marseille recevra Dijon. Au classement, les Parisiens, donc le Paris Saint-Germain est en tête devant Lille, 3e Lyon, 4e Monaco, 5e Lens, 6e Marseille et en bas de classement, 18e c'est la ville de Nîmes, Nantes, le FC Nantes est 19e et Dijon ferme la marche, 20e et lanterne rouge donc de ce classement de Ligue 1, classement provisoire pour la 31e journée. À noter le coup d'arrêt pour Marco Verratti, le joueur parisien. Il ne pourra pas disputer le match aller de la Ligue des Champions à Munich contre le Bayern mercredi prochain. Il a été testé positif au Covid-19. On reste sur le football et on va revenir sur les qualificatifs pour la Coupe du Monde de cette semaine. La France a battu l'Ukraine, mais la France, qui aurait pu faire le carton plein avec 9 points, se retrouve aujourd'hui avec 7 points à ce moment de la qualification donc pour la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce bien ou pas bien, l'avis de David Constant pour RFI.
Minimum, on espérait les 9 points, forcément. Il y a le nul face à l'Ukraine qui restait un petit peu en travers de la gorge, mais il faut, faut quand même remettre dans le contexte d'une situation qui est très compliquée avec l'accumulation des matchs, l'absence de préparation estivale. On est dans la période de mars-avril où il y a les Coupes d'Europe qui deviennent très importantes avec les joueurs qui ont forcément dans un coin de leur tête ces compétitions. Donc on a peut-être envie de gérer un petit peu, de ne pas se blesser. Donc au vu du contexte, voilà, on ne peut pas leur demander beaucoup plus, en tout cas dans le contenu. Et résultat, bah, voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait le carton plein. Hein. Dans les grandes nations, il n'y a que l'Angleterre et l'Italie et l'Arménie. L'Espagne, le Portugal, ils ont toutes perdu les points.
Voilà, donc David Constant, le consultant foot pour RFI. Une très grosse surprise cette semaine en football, ça a été la défaite de l'Allemagne 2-1 contre la Macédoine du Nord. Première depuis 20 ans, on écoute le sélectionneur allemand Joachim Löw.
La déception est énorme, bien sûr. Notre objectif était de prendre 9 points en 3 matchs que nous avons lâchés alors que nous les tenions. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il est difficile de faire une analyse à chaud, mais nous étions fatigués, me semble-t-il. Nous avons manqué de fraîcheur. Nous avons été lents en attaque, mais même quand nous avons été rapides, nous n'avons pas su trouver des solutions pour poser des problèmes à notre adversaire.
Joachim Löw, le sélectionneur donc allemand, après cette défaite de la Mannschaft sur le score de 2-1, donc défaite surprise contre la Macédoine du Nord. On parle de rugby maintenant, une brève, La Rochelle qui a surpassé Gloucester et qui part pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Victoire donc du club français de La Rochelle sur le score de 27-16. Ils devront affronter le vainqueur du match Scarlett contre Celle. Et un mot de tennis pour conclure, le jeune italien, le phénomène italien Yannick Sinner qui se qualifie pour la finale du Masters 1000 de Miami. L'Espagnol a battu Roberto Bautista Agut sur le score de 5-7, 6-4, 6-4. Le jeune italien de 19 ans se retrouve donc en finale du Masters 1000. Un vrai phénomène à venir pour le tennis s'il continue comme cela. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. C'était donc Feu Chatterton et cette chanson Un Monde Nouveau qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'avril. 13h22, courte pause et on parle eh bien, de notre rubrique rétrospective aujourd'hui. Direction l'année 1862 et la publication des premiers tomes d'un livre très célèbre, Les Misérables de Victor Hugo. Tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes le 3 avril, notre rubrique rétro donc pour aujourd'hui, direction l'année 1862. Et cette année-là sortait en librairie les deux premiers tomes du roman de Victor Hugo, Les Misérables. Une fresque historique, sociale du 19e siècle que Victor Hugo nous fait vivre à travers des personnages emblématiques. Les Misérables, le livre a connu un succès considérable au moment de sa sortie. Il a été ensuite, au XXe siècle, l'objet de multiples adaptations, notamment au cinéma. Les Misérables, publié donc le 3 avril 1862, c'est notre rubrique sonore du jour, avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Voilà, je m'appelle Jean Valjean, je suis galérien, libéré depuis 4 jours, destination Pontarlier. Je suis allé dans une auberge, on m'a chassé à cause de mon passeport jaune. Dans une autre, on m'a dit va-t'en. La prison n'a pas voulu de moi. Je suis allé dans la niche d'un chien, il m'a mordu. Mais j'ai de l'argent, je peux payer. Je suis fatigué, j'ai fait 12 lieux, j'ai faim. Vous voulez que je reste ?
Victor Hugo a 60 ans quand il achève d'écrire Les Misérables. La misère était son obsession. C'est une chose sans nom, avait-il dit au Parlement, sous les quolibets, car il disait que la misère devait et pouvait être supprimé. C'était une obsession pour lui.
La politique et sociale de Victor Hugo avec Les Misérables est énorme. Il s'agit de fonder la démocratie avec un peuple qui sait lire. Son ambition, c'est d'être lu et d'avoir une incidence, une utilité dans le monde entier. Et c'est extraordinaire de constater à quel point ça a marché, puisque c'est le roman français, sans doute, même certainement, le plus connu dans le monde entier.
Liam Neeson is Jean Valjean.
ils déplacent les horaires de repas, ils travaillent énormément le matin, l'après-midi, le soir. Il s'enferme dans son roman, sa documentation, si l'on peut dire, c'est ça, c'est là où c'est troublant, c'est-à-dire qu'il l'a accumulé depuis des années.
On a coupé les, comment dirais-je, les extracteurs, messieurs.
On vient de tourner la 35e version des Misérables, adaptée par Alain Decaux, réalisée par Robert Rossel.
Envoie la fumée d'abord. Attends, n'allume pas tout de suite. Envoie la fumée, on allume au dernier moment quand la fumée est bonne.
Vous avez vu que le matelas là est tombé, toute la paille est sortie, hein. Ça y est.
Ce jour-là, on se battait sur les barricades, dans le grand studio de la SFP, à Bry-sur-Marne.
Bon, t'allumes là-bas.
Cet immense décor a été conçu par François Delamotte, le directeur de la photographie, c'est Edmond Richard.
Et ce qui serait bien, regarde, c'est qu'il donne un fusil qu'on leur en donne un.
Robert Rossen se livre avec enthousiasme à sa mise en scène. Il semble plongé dans les gravures des éditions populaires de Victor Hugo. C'est un sujet qu'on ne peut pas traiter sans foi, sans fougue, sans lyrisme.
Pourquoi il s'interrompt? C'est aussi parce qu'il change. Et ça, c'est aussi très rare dans la littérature, c'est que c'est pas le même auteur. Idéologiquement, il est plus d'accord avec ce qu'il avait écrit. Et ça lui pose un véritable problème. Il est passé à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Il n'y a quasiment aucune page des Misérables qui date complètement de la première campagne de rédaction. Parfois un adverbe, un mot, une virgule, et parfois un chapitre, voire un livre entier. Des personnages qui changent de nom, il y a des personnages qui deviennent beaucoup plus importants. C'est le cas de Javert, étonnamment. Très souvent, le narrateur, dans la première partie, disait des choses, mettait des points de vue, que dans la nouvelle version, il ne reprend pas à son propre compte. Il ajoute, par exemple, un conservateur de ce temps-là disait ou pensait, et puis il se cite, sans qu'il t'en dise que c'est lui.
Alors, dans ce rêve qu'il avait d'une société qui aurait été celle des États-Unis d'Europe, avec Paris pour capitale, bien entendu, il y aurait, disait-il, peut-être encore des pauvres, mais il n'y aurait plus de misérables. Qu'est-ce que c'est pour lui un misérable? C'était ces images que Jean Valjean incarne, c'est-à-dire du forçat, l'homme sur lequel pèse la fatalité sociale. L'homme qui a volé un pain et qui va, jusqu'à la fin de ses jours, être un paria. Ça, il n'en veut plus. Ça, c'est ce qui a choqué les contemporains. On a parlé des Misérables dans des termes extraordinaires. On a dit que c'était un livre obscène. Mais il est évident que nous pouvons lire les Misérables un peu d'une autre façon et voir qu'il y a à l'intérieur des Misérables comme deux autobiographies ou deux biographies qui jouent ensemble. Jean Valjean, c'est Victor Hugo. Et Marius, c'est Victor Hugo jeune. Victor Hugo, paternaliste, parce qu'il est paternaliste, enfin, ne cachons pas les choses, c'est vrai. C'est Jean Valjean, et entre les deux, entre Jean Valjean et Marius, joue ce personnage énigmatique et de cœur des contemplations également, la fille morte, d'ailleurs Léopoldine.
Il est tombé!
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
Vite, repartez, repartez!
Voici donc Les Misérables avec Gavroche et Marius et Cosette et Thénardier, Les Misérables avec les barricades et les égouts et Waterloo, et Jean Valjean. Jean Valjean, où est-il? Eh bien, il arrive. Le voici, c'est Lino Ventura. Il apporte sa densité et aussi l'affection dont le public l'entoure à un personnage qui appartient à notre sensibilité collective, un héros qu'on n'a pas le droit de maltraiter. Il y a Javert aussi, bien sûr, le policier dont Victor Hugo dit qu'il a un regard à vous retourner les poches. Un regard qui ne pénètre pas, mais qui fouille. C'est Michel Bouquet.
Ça coûtait cher les livres à l'époque, donc il est très soucieux d'avoir une édition populaire, une édition en petit format. On sait que les ouvriers se cotisaient pour l'acheter et puis le lisaient tour à tour. Il y avait des lectures à haute voix. Le succès public est considérable, obligeant tous les autres auteurs à décaler leur publication. On ne parlait que de ça. Et ça a magnifiquement marché. Et du coup, ce livre qui était le plus important pour lui a eu aussi un impact politique énorme, puisqu'il y fait passer finalement tout ce à quoi il croit en politique.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et elle s'appelle Freda, et cette chanson, Le Murmure des Champs, qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'avril. Je vous rappelle peut-être que, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les mois, nous avons une sélection, notre sélection musicale est disponible sur Spotify. Donc on vient de mettre en ligne la sélection musicale du mois de mars. Vous pouvez y retrouver toutes les chansons qu'on avons jouées dans le programme, et également le best-of de nos productions pour le mois de mars. Donc voilà, 13h33, on va parler de vin australien et de taxation par les autorités chinoises tout de suite.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On signale que les droits de douane imposés par la Chine sur les vins tables australiens vont s'inscrire dans la durée. Et ceci risque de provoquer un bouleversement profond dans le secteur. En effet, sur les 3000 producteurs de vins d'Australie, près de la moitié dépend des exportations vers la Chine et beaucoup auront du mal à survivre. Andrew Calabria est en train de broyer 20 000 tonnes de fruits dans un vignoble familial situé dans la Riverina en Nouvelle-Galles du Sud. Mais c'est une récolte amère pour la famille Calabria de Griffith. En effet, sans les exportations de vin rouge vers la Chine, leur revenu devrait chuter de 10%.
It's been such a harsh couple of weeks going into vintage, knowing that the wine would stop flowing into the China market.
Et ils ne sont pas les seuls. L'imposition d'une taxe à l'importation de 200% par la Chine a effectivement fermé le marché chinois aux vins de table australiens, laissant certains petits producteurs dans une situation désespérée. Le PDG de Australian Grape and Wine, Tony Bataglene, explique.
Probably around 1500 businesses that purely export to China or 80%, and they're really going to struggle. So businesses are going to go broke. They're not going to be around in the future.
Les exportations de vins australiens vers la Chine s'élèvent à 1,2 milliard de dollars et elles ont cessé lorsque la Chine a imposé des tarifs provisoires au mois de novembre dernier dans le cadre d'une enquête anti-dumping. La famille Calabria est originaire d'Italie et l'entreprise familiale a été fondée par le grand-père d'Andrew il y a 75 ans. La perte du marché chinois a contraint l'entreprise à rejoindre de nombreux autres producteurs de vin à la recherche de nouveaux débouchés bien moins lucratifs.
One key market of interest will be the India market, where we know that the population is significant. But remembering that we're living through a pandemic and we cannot go over and self-promote and share and taste our wines with distributors, importers and customers in India.
Il peut cependant y avoir un avantage pour les consommateurs locaux. En effet, on prévoit un excédent de 300 000 tonnes de raisins, ce qui pourrait contraindre les producteurs à se livrer à une bataille féroce pour offrir le prix le plus bas. Tony Bataglene explique comment cela pourrait conduire à des bonnes affaires au butcher shop.
Prices will definitely be affected unless we can really build some markets quickly. And the reality is that can't happen. You just cannot build a market of the size of China in a year.
Malgré tout, la famille Calabria, qui a survécu aux guerres, aux sécheresses et à quelques récessions profondes, continue de se battre.
We know the sacrifices that our great-grandfather and grandfather made to build this business, and but more importantly, build a life.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
À 13h59, retour sur les grands titres de l'actualité. Pour aujourd'hui, la France qui part dans 3 à 4 semaines de confinement avec les écoles qui seront fermées. La Therapeutic Goods Administration of Australia qui se réunira aujourd'hui pour examiner un lien, peut-être existe-t-il un lien entre le vaccin AstraZeneca et des caillots sanguins trouvés dans un homme de 44 ans vacciné le mois dernier. Voilà, on arrive à la fin de notre programme en français pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec notre émission, c'est demain à 13h avec Grégory Pless. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.